Europe 1.
L'abus de faiblesse, il intervient lorsqu'une personne profite de la vulnérabilité d'une autre dans le but d'en tirer un avantage contraire à ses intérêts. L'abus de faiblesse peut être physique, psychique ou encore financier. Dans certains cas, ces manipulations peuvent plonger les victimes dans un état d'emprise face à leur bourreau, altérant ainsi leur discernement et leur capacité à agir. Comment se libérer de la manipulation mentale ? Comment reprendre une vie après avoir passé des mois sous emprise ? Comment faire à nouveau confiance lorsqu'on a été abusé ? Aujourd'hui, je vous propose d'écouter l'histoire de Florence. Fragilisée par un burn-out, elle a décidé de consulter un thérapeute. Mais lors de ses consultations, cet homme s'est révélé être un prédateur sexuel. Je suis Olivier Delacroix, vous écoutez le podcast Dans les yeux d'Olivier, alors soyez les bienvenus. Florence, bonjour.
Bonjour Olivier.
Comment allez-vous ?
Ça va.
Merci de m'accueillir pendant ces quelques jours où nous allons évoquer votre histoire, une période qui a été compliquée à traverser, on le verra. Cette période, elle commence en 2014, vraiment. Elle est
octobre 2014.
Octobre 2014, où vous faites un burn-out. Et dans ce cadre-là, vous allez consulter un thérapeute. Comment est-ce que vous le regardiez, cet homme ?
C'est un lien un peu comme un patient avec un médecin. On a confiance. Vraiment, j'avais confiance en lui. J'avais vu les résultats. Après, c'est le ressenti, pas que de moi, mais des autres victimes aussi. Il avait ce pouvoir, petit à petit, une grande emprise. Il y avait une jeune femme qui a très bien résumé ça avec son homard, qui me fait toujours rire, mais c'était une étudiante en médecine, petit là aussi. Et elle disait, vous mettez une pâte de homard dans de l'eau bouillante, il se coupe la pâte. Vous lui mettez cette même pâte dans de l'eau froide et vous faites bouillir, mais il reste la pâte dedans. Et c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que petit à petit, il a une emprise terrible. Et même si on sait que c'est pas normal, même si on sait qu'on n'arrive pas à s'en sortir parce qu'on n'est pas bien, parce qu'on est encore fragile, parce qu'on ne va pas voir un psy parce qu'on se sent bien.
Florence est cadre dans un hôpital privé quand en octobre 2014, elle est nommée à un nouveau poste. Une nomination qui entraîne des critiques et des conflits avec ses collaborateurs. Sous pression, Florence perd peu à peu confiance en elle et s'isole, les signes annonciateurs du burn-out. À la maison, elle n'a personne à qui se confier. Ses trois filles ont quitté le foyer depuis longtemps et son nouveau compagnon n'est pas particulièrement à l'écoute de ses problèmes professionnels.
On se sent anéanti, c'est-à-dire qu'on ne sait plus qui on est. On a l'impression d'avoir tout loupé et qu'on ne remontera pas. On est vraiment au fond d'un puits et puis on n'a pas de possibilité de remonter, on ne voit pas. On n'a plus envie de rien, on dort plus, on passe. Moi, les larmes, elles coulaient, on me disait bonjour, je pleurais. J'ai aucune raison de pleurer quand on dit bonjour, mais voilà. On a juste une envie quand même que ça s'arrête, mais on ne voit pas d'issue. C'est là où je rencontre le médecin du travail qui me dit « Moi, je ne peux pas vous laisser comme ça, je vous mets inapte, vous finissez votre journée puisque c'est la loi. On a la possibilité de vous offrir 12 séances de psychothérapie. Je pense que c'est important que vous dirigez vers un professionnel. » Je ne dis pas non parce que je me dis que c'est peut-être le moyen d'aller mieux. Et dans l'heure qui suivait, j'avais un appel de ce monsieur.
Quel souvenir vous gardez de cette première séance ?
Un homme bienveillant, monsieur tout le monde. On ne lui donne pas d'âge, il a une cinquantaine d'années pour moi dans mon esprit. Il me fait entrer dans son bureau, je m'assois sur un des fauteuils qui était face à son bureau, lui de l'autre côté de son bureau. Il m'écoute pleurer, j'ai envie de dire, parce qu'au départ je pleure. Ouais. Il me pose quelques questions, savoir un petit peu ce qui s'est passé au niveau de mon travail. Il m'écoute beaucoup la première séance, il me donne quelques petits conseils.
Il vous donne une bonne impression ?
Il me donne une bonne impression. Mm-hmm. Il choisit ses mots, Alors, il n'a pas une voix extraordinaire, mais il a les intonations qui vont bien au bon moment, j'ai envie de dire. Donc, l'écouter, ça fait du bien.
Est-ce que, à votre avis, il s'était rendu indispensable, là, déjà
Oui, parce que C'est-à-dire que j'ai repris le travail très vite, mais je me suis concentrée uniquement sur mon travail.
Oui.
Et j'avais personne autour. La seule personne qui était présente, à qui je pouvais parler, c'était lui. Donc, oui, c'est une sorte d'emprise. J'attends presque le rendez-vous, comme. Voilà, c'est un moyen de vider tout ce qui s'est passé dans la semaine.
Est-ce que vous pensez que, durant toutes ces séances, vous lui livrez les clés de votre personnalité ?
Oui, je lui livre une phrase que je lui ai dite. Mais quel que soit le contexte, je lui ai dit « je ne sais pas dire non ».
Je ne sais pas dire non.
Je ne sais pas dire non. C'était mon gros problème, c'est-à-dire que pour un manager, ne pas savoir dire non, c'est compliqué. Et dans ma vie privée, je ne savais pas dire non non plus. Je suis toujours à « quelqu'un a besoin de moi, je dis oui, je dis oui, je dis oui, je dis oui ». À la limite, jusqu'à en arriver à être débordée, parce que la force de dire oui, je ne sais pas dire non. Je ne veux pas faire de mal aux autres.
Et en disant non, on fait mal aux autres.
Bah, c'était ce que je pensais.
Ouais. Au bout de 12 séances, il ne s'est rien passé, aucun écart de sa part.
Non, toujours derrière son bureau. Je vais insister longtemps sur ça, c'est que pendant les 12 séances, il est derrière son bureau. Il n'y a pas de contact, si ce n'est on serre la main en arrivant, en partant. Mm-hmm. Pendant ces 12 séances, c'est vraiment le thérapeute...
Parfait.
Parfait. Mm-hmm.
C'est à l'issue de ces 12 séances que le comportement de ce thérapeute va changer. La prise en charge de la thérapie prescrite par la médecine du travail étant arrivée à son terme, celui-ci incite Florence à quelques consultations supplémentaires avec une approche, cette fois, beaucoup plus personnelle.
Et c'est là où, insidieusement, on sent que ça change. Il commence à parler de ma vie intime. Et de ce qui s'est passé dans ma vie intime. Donc déjà par rapport à mon compagnon. Et là, j'ai pas de soucis sur ma sexualité avec lui. Par contre, j'en ai eu avec mon ex-mari. Donc il a su que là, j'avais... par rapport à ça, j'étais très mal à l'aise et il s'est engouffré dedans. Et là, pour la première fois, il a commencé à passer de l'autre côté du bureau. Voilà, son premier geste, et qui sera un rituel, c'est... la main sur mon épaule. Bon, c'est surprenant qu'un thérapeute touche une patiente, mais il n'y a rien de mal, il me prévient.
On arrive à ce samedi matin.
Oui.
Là encore, il veut vous voir avant que vous partiez en vacances. Il fait attention à vous.
C'est ça. Donc le fameux samedi matin, il me propose en effet de faire un exercice de relaxation.
Oui.
Et il ramène un tapis de gym.
Un tapis de gym.
Il me fait m'allonger pour faire des exercices de respiration. Il me met la main sur l'épaule. Et là, mon souvenir, à un moment-ci, c'est qu'il a pris ma main, il l'a mis sur son sexe.
Oui.
Et après, il m'a violée en me tutoyant. Et j'étais pétrifiée, sidérée. Mon corps était incapable de réagir, ma tête... ne comprenais pas ce qui se passait. Je ne sais pas comment je me suis retrouvée nue. Je ne sais pas. Ça s'est terminé, j'étais abasourdie. Il repart dans sa cuisine, il revient habillé derrière son bureau. Et là, il me revoit, il me dit que l'exercice a été poussé un peu loin, que ça ne se renouvellera pas. Il me fait payer mes 60 euros. Il me dit, écoutez, je me permettrai de vous appeler dans la semaine, puisque l'exercice, enfin, vous avez été très secoué. Je me permettrai de vous appeler pour savoir comment vous allez au cours de la semaine.
Alors, il vous dit que l'exercice a été poussé, mais que...
Mais que ça va m'aider.
Ouais.
Voilà, en gros, qu'il faut en passer par là pour qu'un jour je sache dire non. Enfin, voilà.
Qu'est-ce qui vous habite comme sentiment ?
J'ai honte.
Ouais.
J'ai honte et... Mais la honte, je l'aurai tout le temps.
Ouais.
Elle passe pas. Il y a une ambiguïté, mais terrible, parce que On accélérera de sortir de ce bureau là, parce qu'on a envie d'aller prendre une douche, hein, c'est franchement ça. Mmh. Et à la fois on a envie de le croire, enfin on se dit bon ben peut-être qu'en effet il a pas pu, c'est quand même dramatique, il a pas pu se contrôler, il a peut-être cru un signe de moi ou quelque chose. C'est-à-dire que je culpabilise de ce qui s'est passé.
Lorsque vous sortez, vous dites que vous êtes dans un état...
Second. Je me tenais au grillage. Je tenais pas debout, j'avais l'impression que tout le monde me regardait. J'avais la nausée, j'étais vraiment très très mal. Je suis complètement perdue. De nouveau, perdue.
Le lendemain, Florence part en vacances avec des amis, mais ne parle à personne de ce qu'elle a vécu. Comme prévu, après quelques jours, son thérapeute l'appelle. Florence ne le comprendra que plus tard, mais ce coup de fil qui se veut strictement professionnel est surtout destiné à la rassurer et à entretenir le lien avec sa victime. Une sorte de consultation à distance qu'il ne manquera pas d'ailleurs de lui facturer par la suite. Mais cette stratégie fonctionne puisque dès les vacances terminées, les séances reprennent.
À ce moment-là, j'avais perdu tout discernement. J'étais incapable de réfléchir de façon sensée. Et donc j'y vais avec une appréhension, mais aussi confiance. C'est assez ambivalent, mais c'est pas une grosse appréhension. J'ai dit bon.
Donc lors de cette séance d'après-vacances, est-ce qu'il reste derrière son bureau ce jour-là ?
Non, il n'est pas resté derrière son bureau. Il commence par être derrière son bureau et c'est à cette même période qu'on me détecte
une boule au sein.
Une boule au sein, ouais. Et que je dois subir une biopsie avec tout ce que ça peut entraîner. Donc je ne suis pas bien. En tant que femme, je ne suis pas bien. Et de là, on parle de féminité et c'est de nouveau porte ouverte. Donc les exercices changent un peu. Il me dit donc on passe de l'autre côté, il sort ce tapis de gym. Il me fait pas m'allonger, il me dit on va faire un exercice de yoga. Et donc il commence à me guider, expirer, inspirer, jusqu'au moment où il s'est mis derrière moi. Et il a recommencé.
Vous évoquez ce trou de mémoire à la première. C'est-à-dire, à chaque fois...
Je ne sais jamais comment je me suis retrouvée nue ou dévêtue, je ne sais pas. J'avais conscience de ce que je subissais, mais j'étais incapable de réagir, comme un espèce d'état d'hypnose. Après, tout en me tutoyant, il me dit, mais tu vois que t'es une vraie femme. Enfin, il y avait des termes quand même très crus. Là, je me sens pas une femme, je me sens... rabaissée... un objet sexuel. Et c'est vrai que c'est difficile parce que quand vous voulez en parler après coup vous voulez en parler, ça fait un peu comme les femmes battues, on vous dit mais elle avait qu'à partir. Et là on m'a dit j'avais qu'à arrêter. Mais c'est pas si simple. C'est pas comme ça que ça marche. Il y a une telle emprise qu'on est
Piégé. Il y a quelque chose que j'aimerais savoir, durant ces 2 mois, vous êtes violée chaque semaine. Comment est-ce que vous vous comportez ?
J'ai commencé à avoir énormément de crises d'angoisse, de vertiges, de malaise, sans aucune raison médicale.
Crise de panique. Oui.
Où j'ai dû faire appel à ma fille la plus proche, donc c'est Coralie, parce que je me voyais mourir. Et ça me prenait, j'étais en train de faire à manger, enfin, dans des situations quelconques de la vie quotidienne, et je partais dans des crises de panique terribles. Oui. Et c'est vrai que le jour où il m'a appelé, où il a dit que lui annulait, il avait un souci de santé, qu'il ne pouvait pas assumer sa consultation, qu'il ne savait pas quand il pourrait assumer sa consultation, j'étais contente.
En fait, il était en prison.
Il était en prison. Parce qu'une autre personne a porté plainte.
Car effectivement, l'homme est en réalité incarcéré à la suite de la plainte d'une de ses patientes, elle aussi abusée sexuellement. Florence est interrogée par la police, mais elle est toujours sous l'influence du thérapeute qui, du fond de sa cellule, parvient à la harceler quotidiennement de coups de fil et de messages. Florence nie, fait un faux témoignage et pendant 5 mois s'enferme dans le mensonge. Jusqu'en octobre 2015, où elle va enfin avoir un véritable déclic.
Entre les appels, mon faux témoignage, j'ai de plus en plus de grosses angoisses, de malaise, je ne vais pas bien du tout.
Parce qu'il vous appelle ?
Parce qu'il m'appelle, je réponds, je décroche, j'obéis à ses ordres. Ouais. Je suis pas guérie. Je ne suis pas guérie, c'est quand même mon gros problème. Et il sait que je ne sais pas dire non.
C'est fou, il ne vous lâche pas.
Il me lâche pas. Et là, oui, et c'est à cette période qu'il va me demander en plus de faire une attestation pour son avocat en disant que c'était un merveilleux thérapeute, qu'il m'avait apporté beaucoup. Donc il me dicte. Ma vraie décision, c'est ce jour-là, où il me dicte ce que je dois écrire. Et c'est là où vraiment je me suis dit, non, là, il faut que ça s'arrête. Et donc je retourne au commissariat au mois d'octobre.
Pour porter plainte.
Pour porter plainte.
Pour viol.
Voilà. C'est rassurant et ça fait du bien d'être considérée comme une victime. Et après j'ai pu en parler à mes filles. C'est très difficile quand même d'avouer à ses enfants. Alors qu'on est grand-mère, donc il y a encore une génération en plus, qu'on a été violée et qu'on s'est laissé abuser, quoi, ouais. Qu'on ne s'est pas défendu. Mm-hmm. C'est un aveu très compliqué.
Ouais.
En octobre 2018, 4 ans après les faits, l'homme a été enfin condamné en appel à 15 ans de réclusion criminelle.
Je pense que j'ai besoin de témoigner. Ça fait partie de ma guérison.
Coralie, la fille cadette de Florence, a soutenu sa mère pendant toute cette bataille. Elle se souvient du moment où celle-ci a trouvé le courage de lui révéler ce qu'elle avait vécu.
Elle m'a parlé de lui en me disant qu'elle avait été au commissariat la première fois, donc à me dire qu'il était accusé d'attouchement sexuel et de viol sur des patientes. Et donc ce fameux jour, elle m'a dit « Écoute, je ne t'ai pas tout dit. La vérité, c'est que moi aussi, j'ai été victime de mon thérapeute, enfin, de cet homme. » Donc assez brutal.
Vous saisissez tout de suite ce qu'elle veut dire ?
Oui.
Ouais.
Mais je ne l'ai pas cru.
Vous n'avez pas cru ?
Non.
Pourquoi ?
Comment on peut comprendre qu'on y retourne ? Pourquoi ?
Jusqu'au procès, vous aviez du mal ?
Procès, non, je n'ai pas voulu y croire.
Ouais, vous ne
je l'ai accompagnée croire. Parce que je l'accompagnerai toujours, mais je ne refusais d'y croire. Mm-hmm. Ce n'était pas possible. Et je ne comprenais pas pourquoi elle y était retournée. Et plusieurs fois, je lui ai demandé, mais pourquoi tu y es retournée ?
Vous lui en vouliez ?
Oui, d'y être retournée et d'en arriver là, oui. Quelque part, oui.
Vous,
et pourquoi
vous...
elle n'en avait pas parlé avant ? Ce que maman a vécu, pour moi, c'est comme une forme d'hypnose. C'est-à-dire qu'elle a été manipulée de façon à ce que ça se passe. Et l'hypnose, c'est un peu... On vous met dans un état de transe pour après faire un peu de vous la marionnette, j'ai envie de dire.
Elle traduit ce qui est ressorti du procès, en fin de compte, parce qu'on a tout évoqué un rituel... on a toutes eu ce ressenti à un moment de pas avoir, d'avoir conscience, mais de pas pouvoir réagir à ce qui se passait.
Coralie, vous avez été particulièrement ébranlée par l'attitude de cet homme lors du procès.
Il est parti dans un délire que c'était une thérapie, que... Enfin, presque à vous citer des noms d'hommes qui auraient écrit des livres par rapport à ce genre de thérapie. Enfin, c'était absolument incroyable, sa capacité à se persuader qu'en fait, il faisait rien de mal. parce qu'il était persuadé de ne rien faire de mal et d'aider les personnes, en fait.
Comment est-ce que vous trouvez votre mère aujourd'hui ?
Plus forte. Elle a grandi. Elle a fait le choix d'en parler, elle a fait le choix de... D'assumer. C'est peut-être pas le bon terme, mais...
D'accepter. Florence, comment allez-vous aujourd'hui ?
Je vais mieux, mais je pense qu'il va encore me falloir du temps. Je l'avais dit au procès, ça peut être un peu surpris, mais j'avais dit, moi, de toute façon, j'ai pris perpète. Jusqu'à la fin de mes jours, c'est quelque chose qui sera en moi. J'ai toujours d'énormes soucis dans mon rapport aux hommes, hein, maintenant. C'est la confiance, et la confiance avec tout ce qui est personnel médical, tout ce qui est médecin. Voilà, j'ai peur. J'ai encore du mal à me retrouver seule dans un cabinet avec un homme. J'essaie d'être près de la porte. De toute façon, je ne peux dormir qu'à côté d'une porte maintenant. Et porte ouverte.
Pourquoi est-ce que vous témoignez aujourd'hui dans ce film ?
Je pense que c'est ma façon d'accepter enfin que je n'étais qu'une victime, que je ne suis coupable de rien. Et c'est vrai que j'y ai pensé, hein, au regard de mes collègues, de mes supérieurs, des médecins. Mais c'est peut-être la première fois où j'ai pas honte, où je me sens pas responsable de ce qui m'est arrivé. Ça fait du bien.
Ça fait du bien de vous voir sourire.
Oui, je recommence à sourire. Et c'est bien. C'est bien.
Merci beaucoup, Florence. Portez-vous bien.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Le podcast Dans les yeux d'Olivier est une création Europe 1 Studio. Production, Lisa Soster. Réalisation, Christophe Daviau. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez cliquer pour vous abonner et être averti dès qu'il y a un nouvel épisode. C'est gratuit. Alors je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à très très bientôt.